Chapitre 6 Appareillage En exergue Alerte, alerte, voici les pirates d'Oshali qui partent, le captif d'Oshali. Lorsque Kernok parut sur le pont, il se vit un profond silence. On n'entendait que le bruit aigu du sifflet de Maître Zélie qui, penché sur l'avant du brick, faisait amarrer l'ancre en indiquant la manœuvre par des modulations différentes. « Faut-il déramper l'ancre de tribord ? » cria-t-il au second, qui transmit cette demande à Kernok. « Attends, dit celui-ci, et fais monter tout le monde sur le pont. » Un coup de sifflet particulier, répété par le contremaître, était à peine donné que les 52 hommes et les 5 mousses qui composaient l'équipage de l'épervier étaient sur le pont, rangés sur les deux lignes, la tête haute, le regard fixe et les mains pendantes. Ces braves gens n'avaient pas l'air candides et purs d'un jeune séminariste, oh non ! On voyait à leurs traits durs et prononcés, à leur teint hâlé, à leur front sillonné, que les passions, et quelles passions, que les passions avaient passé par là, et qu'ils avaient mené une vie, hélas, bien orageuse, ces honnêtes compagnons. Et puis c'était un équipage cosmopolite. C'était comme un résumé vivant de presque tous les peuples du monde. Français, russes, anglais, allemands, italiens, espagnols, américains, égyptiens, hollandais, que sais-je. Il y avait de tout, vous dis-je, jusqu'à un chinois que Kernok avait embâché à Marnille. Pourtant, cette société, composée d'éléments si peu homogènes, vivait à bord en parfaite intelligence, grâce à la rigoureuse discipline que Kernok avait établie. « Fais l'appel !» dit-il au second, et chaque matelot répondit à son nom. Il en manquait un, l'escoète, le pilote, un compatriote de Kernok. « Note-le pour 20 coups de corde et 8 jours de fer !» dit celui-ci au lieutenant. Et le lieutenant écrivit sur son carnet « L'escouade 20 C2C et 8 J2F avec autant d'insouciance qu'un négociant qui date l'échéance d'un billet. » Kernok alors monta sur le banc de car, déposa son porte-voix près de lui et parla en ces termes. Enfin, nous allons reprendre la mer. Il y a 2 mois que nous moisissons ici comme un ponton pourri. Nos ceintures sont vides. Mais la soute à poudre est pleine. Nos canons ont la bouche ouverte et ne demandent qu'à parler. Nous allons sortir par une bonne brise de bord d'ouest et d'y flâner du côté du détroit de Gibraltar. Et si Saint-Nicolas et Sainte-Barbe nous insistent, mon Dieu, enfant, nous reviendrons les poches pleines, faire danser les filles de Saint-Paul et boire le vin de Paimpoule. Hurrah, hurrah ! Cria l'équipage en signe d'approbation. Alors, dérobe à tribord, range à la guet le grand fauque, « Et abordez la brigantine !» cria Kernok d'une voix de stentor, donnant aussitôt l'ordre d'appareiller pour ne pas laisser refroidir l'ardeur de son équipage. Le brick, n'étant plus appuyé sur ses ancres, suivit l'impulsion du vent et vint sur tribord. « Range et largue les huniers, oriente au plus près !»« Brasse, brasse, bâbord, amarre les huniers !» cria encore Kernok. Et le brick, suivant la force de la brise, se mit en marche. Ses larges voiles grises se gonflèrent peu à peu, le vent circula en sifflant dans ses cordages, et déjà Paimpoule, la côte de Tréguier, l'île Saint-Anne-Roy-Sistan et la Tour Blanche, s'effaçant peu à peu, fuyaient aux yeux des matelots, qui, groupés dans les haubans et dans les hunes, le regard fixé sur la terre, semblait saluer la France d'un long et dernier adieu. La barre à bâbord, la barre à bâbord, laisse arriver! Cria tout à coup Zélie avec effroi. Aussitôt la roue du gouvernail tourna rapidement et l'épervier s'inclina et frémit sur la lame. Qu'y a-t-il donc? Demanda Kernock quand la manœuvre fut exécutée. Ben, c'est l'escotte qui nous rejoint, capitaine. Le bateau qu'il porte a manqué de se laisser aborder et nous lui sommes coulés comme une coquille de noix s'il n'avait pas fait venir sur tribord, répondit Zélie. Le retardataire, qui était lestement sauté à bord, s'avança d'un air confus près de Kernock. Et pourquoi as-tu autant tardé? Ma vieille mère vient de mourir. J'ai voulu rester jusqu'au dernier moment pour lui fermer les yeux. Ah, dit Kernock, puis se tournant vers son second. Faites régler le compte de ce bon fils. Et le second dit deux mots à l'oreille de Zélie, qui emmena l'escoette à l'avant du brick. Mon garçon, lui dit-il, alors en balançant une corde longue et mince, nous avons un os à ronger ensemble. Je comprends, dit l'escoette en pâlissant, et combien? Oh, une misère, mais encore, on aime à savoir. Tu verras, on ne fera tort de rien. D'ailleurs, tu compteras. Bon, je me vengerai. Oh, on dit toujours cela avant, et puis après, on n'y pense pas plus qu'à la brise de la veille. Allons, mon garçon, dépêchons. Car je vois le capitaine qui s'impatiente, et il pourrait vouloir me faire goûter de la même sauce. Et on attacha l'escouette sur une échelle de hauban, les bras élevés, le dos nu jusqu'à la ceinture. On est prêt, dit maître Zélie. Kernock fit un signe, la garcette siffla et retentit sur le dos de l'escouette. Jusqu'au sixième coup, il se comporta fort décemment. On n'entendait qu'une espèce de gémissement sourd qui accompagnait chaque coup de corde. Mais au septième, le courage l'abandonna, et au fait, il devait souffrir beaucoup car chaque coup laissait sur son corps un sillon rouge qui venait aussitôt bleu et blafard. Puis l'épiderme s'enleva, la chair était vive et saignante. Il paraît que la torture devient intolérable puisqu'un état d'affaissement général remplaça l'irritation convulsive qui jusqu'alors avait soutenu l'escoette. « Il se trouve mal !» dit Zélie. La garce s'est levée. Alors M. Durand, le canonnier chirurgien charpentier du bord, s'approcha, tâta le pouls du patient, puis, grimaçant une espèce de moue, il leva les épaules et fit un mouvement significatif à maître Zélie. La garce s'est joua de nouveau, mais le son qu'elle rendait était plus sec et éclatant, comme lorsqu'elle retombait sur une peau lisse et polie, mais sourd et mat comme le bruit d'une corde qui frapperait une boue épaisse. C'est qu'aussi le dos de l'escorette était à vif, la peau tombait en lambeaux, à ce point que le maître mettait sa main devant ses yeux pour ne pas être éclaboussé par le sang qui jaillissait à chaque coup. « Et va !» dit-il avec un air de satisfaction mêlé de regret, comme une jeune fille qui donne à son amant le dernier des baisers qu'elle lui a promis. Ou si vous l'aimez mieux, comme un banquier qui compte sa dernière pile d'écus. Toujours est-il qu'on emporta l'escoette sans qu'il donnât aucun signe de vie. « Maintenant, dit Kernock, un bon emplat de poule à canon et de vinaigre sur ses ingratitudes, demain il n'y paraîtra plus. » Puis, s'adressant au maître timonier, « Courez une bonne bordée au sud-ouest, et si l'on signale une voile, veuillez m'avertir. » Et il descendit dans sa chambre pour rejoindre Mélie. Chapitre 7 Carlos et Anita. En exergue, Ce tumulte affreux, cette fièvre dévorante, c'est l'amour. Aver la morte in tanti gli occhi, per me, Pétrarque. La douce influence des climats méridionaux se faisait encore sentir car l'étroit mât San Pablo se trouvait à la hauteur du détroit de Gibraltar. Poussé par une faible brise, toutes ses voiles étaient dehors, depuis le contre-Cacatois jusqu'au phoque d'été. Il venait du Pérou et se rendait à Lisbonne sous pavillon anglais, ignorant la rupture de la France et de l'Angleterre. L'appartement du capitaine était occupé par Don Carlos Toscano et sa femme, riche négociant de Lima, qui avait frété le San Pablo à Callao. On ne reconnaissait plus la chambre du navire tant Carlos y avait déployé de luxe et d'élégance. Sur les parois nues et grises s'étendait une riche draperie qui, se séparant au-dessus des fenêtres, retombait en plis ondoyant. Le plancher était recouvert de nattes de lima, tressées d'une paille fine et blanche, et encadrées dans de larges dessins de couleurs tranchantes. De longues caisses de bois d'acap rouge et polies contenaient des camélias, des jasmins du Mexique et des cactus aux feuilles épaisses. Puis, dans une belle volière de citronniers, entourée d'un léger réseau d'argent, voltigeaient des bengalis à la tête verte, aux ailes pourpres, reflétées d'or, et de jolies perruches de Porto Rico, toutes bleues, avec une aigrette orange et un bec noir comme l'ébène. L'air était tiède et embaumé. Le ciel pur, la mer magnifique. Et sans le léger balancement que la houle imprimait au navire, on aurait pu se croire à terre. Assis sur un riche divan, Carlos souriait à sa femme, qui tenait encore une guitare à la main. « Bravo, bravo, mon Anita !» s'écria-t-il. « Jamais on n'a mieux chanté l'amour !»« C'est qu'on ne l'a jamais mieux éprouvé, mon ange !»« Oui, et pour toujours !» dit Carlos. « Pour la vie !» dit Anita. Et leurs bouches se rencontrèrent et il la serra contre lui dans une étreinte convulsive. En tombant à leurs pieds, la guitare rendit un accord doux et harmonieux comme le dernier son d'un orgue. Carlos regardait sa femme de ce regard qui va au cœur, qui fait frissonner d'amour, qui fait mal. Et elle, fascinée par ce regard âcre et brûlant, murmurait en fermant ses yeux appesantis « Grâce, grâce, mon Carlos !» Puis joignant ses mains, elle glissa doucement aux pieds de Carlos et appuya sa tête sur ses genoux. De sorte que sa pâle figure était comme voilée par les longs cheveux noirs. Seulement ses yeux brillaient à travers, ainsi qu'une étoile au milieu d'un ciel sombre. « Et tout cela est à moi, » pensait Carlos, « à moi seul au monde et pour toujours, car nous vieillirons ensemble. Les rides sillonneront aussi cette figure fraîche et veloutée, ces anneaux d'ébène s'arrondiront en boucles argentines, » disait-il en passant sa main dans la chevelure soyeuse d'Anita. « Et vieille, vieille grand-mère, elle s'éteindra par un beau soir d'automne, au milieu de ses petits-enfants, et ses derniers mots seront « Je te rejoins, mon Carlos. » « Oh oui, quand je serai mort avant elle. » « Mais d'ici là, que d'avenir, que de beaux jours. » Jeunes et forts, riches, heureux d'une conscience pure et du souvenir de quelques bienfaits, nous avons reçu notre belle Andalousie. Nous aurons revu Cordoue, nous aurons revu son Alhambra, sa mosaïque d'or, ses portiques découpés à jour, son architecture aérienne, notre belle villa, avec ses bois d'oranger frais et parfumés, et ses bassins de marbre blanc ou d'or une eau limpide. et mon père, et la maison où je suis né, et la jalousie verte que je soulevais si souvent quand tu passais, et la vieille église de San Juan, où pour la première fois, pendant que j'étais à prier, ta bouche murmura à mon oreille, « Mon Anita, je t'aime, et vois si la Vierge me protège. » Au moment où tu me disais « Je t'aime », je venais de lui demander ton amour en promettant une neuvaine à Notre-Dame, reprit Anita, car son époux avait fini par penser tout haut. « Écoute, mon Carlos, soupira-t-elle, jure-moi, mon ange, que dans 20 ans nous dirons à notre neuvaine à Notre-Dame pour lui rendre grâce d'avoir béni notre union. » Mais je te le jure, âme de ma vie, car dans 20 ans, nous serons encore jeunes d'amour et de bonheur. Oh oui, notre avenir est si riant, si pur que... Elle ne put achever, car un boulet ramé, entrant en sifflant par la poupe, lui fracassa la tête, coupa Carlos en deux et brisa les caisses de fleurs et la volière. Quel bonheur pour les Bengalis et les perruches qui se sauvèrent par les fenêtres en battant joyeusement des ailes. Chapitre 8. Prise. En exergue. Villemetalberg. Possible. Balzac. Sacrebleu le beau coup. Vois donc, maître Zélie. Le boulet est entré au-dessous du couronnement et sorti par le troisième sabord de tribord. Mordieu, mais tu fais merveille! Ainsi disait Carnoc, une longue vue à la main, et caressant la couleuvrine encore toute fumante qu'il venait de pointer lui-même sur le São Paulo, parce que ce navire n'avait pas belissé assez vite son pavillon. C'est ce boulet qui venait de tuer Carlos et sa femme. « Oh, c'est heureux !» reprit Carnoc en voyant le pavillon anglais se dérouler peu à peu au bout de la corne du trois-mâts. « C'est heureux, il se nomme. Il dit de quel pays ?»« Mais je ne me trompe pas, un anglais. C'est un anglais, et le chien ose le signaler. Il n'a pas un canon à son bord. »« Zélie, Zélie » cria-t-il d'une voix de tonnerre. « Fais larguer toutes les voiles du brick !» Borde les avirons, dans une demi-heure nous nagerons dans les eaux. Et vous, lieutenant, faites faire le branle-bas du combat, envoyez les hommes à leurs pièces et distribuez les sabres et les piques d'abordage. Puis s'élançant sur une caronade. Mais enfin, si je ne me trompe, ce trois-mâts arrive de la mer du Sud. À cette guibre courte et commarde, à cette rentrée, mais je reconnais un bâtiment portugais ou espagnol qui se rend à Lisbonne sous pavillon anglais. Il y aura peut-être que la guerre est déclarée à l'Angleterre. Ça, le regarde, mais ce chien-là doit avoir des piastres dans le ventre. Nous allons voir, cordieux. Enfin, sa coque seule vaut 20 000 gourdes. Mais patience. L'épervier étant sévère et bien trop pas montrer ses ongles. Allons, enfants, nageons ferme. Et il animait de la voix et du geste les matelots qui, courbés sous les longs avirons du brick, doublaient la vitesse que lui donnait la brise. D'autres marins s'armaient précipitamment de sabres de poignard, et maître Zélie faisait en tout cas disposer les grappins d'abordage. Carnoc, lui, après avoir fait toutes ses dispositions, descendit dans le faux pont et enferma Mélie, qui dormait dans son hamac. On était prêt à bord de l'ébervier. Le capitaine des malheureux Sambo, reconnaissant le brick de Carnoc pour un bâtiment de guerre, tout en gémissant du malheur arrivé à son bord, avait hissé le pavillon anglais, espérant se mettre sous sa protection. Mais quand il vit la manœuvre de l'épervier, dont la marche était encore hâtée par de longs avirons, il n'eut plus de doute et comprit qu'il était tombé sous le vent d'un corsaire. Fuir était impossible. À la faible brise qui soufflait par rafale avait succédé un calme plat, et les avirons du pirate lui donnaient un avantage de marche positif. Il ne fallait plus songer à se défendre. Que pouvaient faire les deux mauvais canons du San Pablo contre les 20 caronades de l'épervier qui ouvraient leur gueule menaçante? Le prudent capitaine mit donc en panne, attendit l'événement, ordonna à son équipage de se prosterner à genoux, d'invoquer San Pablo, le patron du navire, qui ne pouvait manquer de manifester sa puissance dans une telle occasion. Et, suivant l'exemple du capitaine, l'équipage dit un pater. Mais l'épervier avançait toujours. Deux avés. On entendait déjà le bruit de ses avirons qui battaient les flots en cadence. Cinq credos. Il me dios. C'était la voix, la grosse et terrible voix de Carnac qui résonnait aux oreilles des Espagnols. Oh oh, disait le pirate, il met en panne, il amène son pavillon. Le gredin est sous-venté. Il est à nous. Allez, Zélie, fais mettre en travers. Armez la chaloupe et le grand canot. Je vais aller flâner à bord. Et Carnoc, passant des pistolets dans sa ceinture, s'armant d'un large coutelas, fut d'un bond dans l'embarcation. Et si c'est une ruse, si le trois-mâts fait un seul mouvement, cria-t-il au lieutenant, faites force d'aviron et venez nous embosser à longueur de baf. 10 minutes après, Carnoc sautait sur le pont du San Paolo, ses pistolets à la main, son sabre entre ses dents. Mais il poussa un tel éclat de rire que sa bonne lame tomba de sa bouche. S'il riait tant, c'était de voir le capitaine espagnol et son équipage agenouillés devant une statue grossière de Saint Paul et se frappant la poitrine à coups réitérés. Le capitaine, surtout, baisait une relique avec une ferveur toujours croissante, en murmurant « San Pablo ora pro nobis ». San Pablo ne pria point, hélas. « Finis tes sageries, vieux corbeau !» dit Carnoc, quand il eut asserri, « et mène-moi à ton nid !»« Señor, no entiendo !» répondit en frissonnant le malheureux capitaine. « Oh oui, c'est vrai !» dit Carnoc, « tu n'entends pas le français !» Or, comme Carnoc possédait de toutes les langues vivantes juste ce qui était relatif et nécessaire à sa profession, il reprit avec aménité « El dinero, compadre !»« L'argent, compère !» Et l'espagnol essaya de balbutier encore un « No entiendo !» Mais Carnoc, qui était au bout de son instruction, remplaçant le dialogue par la pantomime, lui mit sous le nez le canon de son pistolet. À cette invitation, le capitaine poussa un profond, un douloureux, un poignant soupir et fit signe aux pirates de le suivre. Quant au reste de l'équipage du San Pablo, les matelots du brick l'avaient garrotté pour n'être pas distraits dans leurs opérations. L'entrée de la soute où était déposé l'argent de Don Carlos se trouvait sous la natte qui couvrait le plancher. Aussi Carnoc fut-il obligé de passer par la chambre où gisaient les restes sanglants des deux époux. Le pauvre capitaine détourna la vue et passa la main sur ses yeux. « Tiens !» dit Carnoc en poussant le cadavre du pied. « Voilà l'ouvrage de Mélie !» « Bon Dieu, quelle besogne ! Ah ça, mais... il divino, el dinero, compère, c'est l'important !» Ils ouvrirent la soute. Alors Carnoc fut sur le point de se trouver mal, à la vue d'une centaine de tonneaux cerclés en fer, sur chacun desquels on lisait 20 000 piastres, 50 000 francs. « Est-il possible ?» s'écria-t-il. « 4, 5, peut-être 10 millions !» Et dans sa joie, il embrassait son second, il embrassait les matelots, il embrassait le capitaine espagnol, il embrassait tout le monde, tout, jusqu'au cadavre sanglant de Carlos et d'Anita. 2 heures après, une embarcation conduisait à bord de l'épervier les 5 dernières tonnes d'argent, reste des dépouilles du trois-mâts marchand, où Carnoc avait laissé 10 hommes de garnison. L'équipage espagnol garrotté sur le pont et le capitaine attaché au grand mât. « Enfants, dit Carnoc, je vous donne ce soir, comme on dit, noces et festins, et puis une surprise, si vous êtes sages. »« Mon Dieu, sacre bleu, capitaine, nous serons sages, sages comme des vierges, répondit maître Zélie en faisant l'agréable. » Chapitre 9. Orgie. En exergue, Hicorus ingens colit orgia avienus. Du vin, sacrebleu, du vin! Les bouteilles se choquent, les flacons se brisent, les jurements et les chants éclatent de toutes parts. C'est tantôt le bruit sourd que fait un pirate aviné en tombant sur le pont, tantôt la voix chevrotante de ceux qui tiennent encore leur verre à la main, et de l'autre se cramponne à la table. « Du vin ici, mousse, du vin où je t'assomme ?» Et il y en a qui luttent entre eux, pied contre pied, front contre front. Ils s'étreignent, ils s'enlacent. L'un glisse, tombe. Un os crie et se rompt, et les imprécations remplacent le rire. Il y en a qui sont couchés, saignants, le crâne ouvert aux pieds de gais compagnons, qui détonne une délirante chanson bachique. Il y en a qui, dans le dernier degré de l'abrutissement et de l'ivresse, s'amusent à écraser entre deux boulets la main d'un matelot ivre-mort. Et il y a une foule d'autres jeux encore. Les gémissements, les cris de rage et de folle joie se confondent et s'accouplent. Le pont est rougi de vin ou de sang. Qu'importe! Le temps fuit rapide à bord de l'épervier. Tout est folie, entraînement, délire. Allez, allez, jouissez de la vie, elle est courte. Les jours mauvais sont fréquents, et qui sait si aujourd'hui aura pour vous un lendemain. Amusez-vous donc, parbleu, saisissez le plaisir en tout et partout. Non, ce plaisir frêle descend aux ailes d'or et d'azur qui ressemble à une jeune fille douce et timide, ce plaisir délicat qui aime à secouer sa tête fraîche et blonde devant les 1000 glaces d'un boudoir ou effleurer du bout de ses lèvres roses une coupe remplie de liqueur glacée, ce sybarite enfin qui se veut autour de lui que fleurs, parfums et pierreries, femmes jeunes et vives, musique mélodieuse et vins exquis, non, sacre bleu! Mais ce plaisir robuste et carré, à l'œil de satyre, au rire de démon, qui entre les tavernes et les tripots, boit et s'enivre, mord et déchire, frappe et tue, puis se roule et se tord au milieu des débris d'un repas grossier, en poussant un éclat de rire qui ressemble au râlement d'un chacal. Allez, allez, jouissez de la vie, elle est courte, vous dis-je. Donc on jouissait de la vie à bord de l'épervier. Il était nuit close. Les fanaux qui garnissaient les bastingages répandaient une vive clarté sur le pont du navire que Carnoc avait fait garnir de tables pour fêter son heureuse capture. Au repas succédait le divertissement. Le mousse grain de sel, après s'être frotté de goudron de la tête aux pieds, avait trouvé bon de se rouler dans un sac de plumes. Et sorti de là, il ressemblait assez à un volatile à 2 pieds et sans ailes. Et quel plaisir de le voir gambader, tourner, sauter, danser, voltiger, enhardi par les applaudissements de l'équipage et excité par les coups de corde que Maître Zélie lui administrait de temps en temps pour entretenir sa souplesse. Mais un drôle de corps, un plaisant, un Allemand, je crois, pour le rendre la fête complète, approcha une mèche enflammée de l'aigrette d'étoupe qui se balançait avec grâce sur le front de grains de sel. Puis le feu, communiquant de l'étoupe aux cheveux, des cheveux aux plumes, l'acrobate improvisé, le malheureux grain de sel, absorba tant de calories que sa peau se fendit et craqua sous son enveloppe enflammée. Pour le coup, riait aux larmes à bord de l'épervier. Pourtant, comme le mousse poussait des cris affreux, une bonne âme, une âme compatissante, car il y en a partout, le prit et le jeta à la mer en disant « Je vais l'éteindre !» Heureusement, grain de sel nageait comme un saumon. Il se plut même à prolonger son bain, qui le rafraîchit beaucoup, se promena autour du brick comme un triton ou une naïade, à votre choix, puis y rentra par le sabord d'Arcas, en disant avec son stoïcisme accoutumé « Oh, j'aime mieux ça que d'être brûlé vif, mais je me suis tout de même joliment amusé !» On entendit un coup de pistolet, puis un cri perçant sorti de la chambre de Kernock. Zélie s'y précipita. C'était un rien, une misère. Figurez-vous que Kernock, un peu échauffé par le grog, avait beaucoup vanté son adresse à Mélie. « Je te parie, lui disait-il, que d'un coup de pistolet, je te fais sauter le couteau que tu tiens à la main. » Mais il ne doutait pas de l'habileté de son amant, mais ne se souciant pas de l'épreuve, elle avait éludé la proposition. « Lâche !» lui avait crié Kernock. « Eh bien, pour t'apprendre, je vais t'enlever ton verre. » Et ce disant, il s'était armé d'un pistolet, et le verre de Mélie, brisé par la main, avait volé en éclats. Quand Zélie entra, Kernock, renversé en arrière, le pistolet encore à la main, riait de la frayeur de Mélie, qui, pâle et tremblante, s'était réfugiée dans un coin de la chambre. « Eh bien, Zélie, dit le pirate, eh bien, mon vieux loup de mer, tes demoiselles s'amusent-elles bien là-haut ? « Je vous en réponds, capitaine, mais ces dames attendent la surprise. »« La surprise, ah oui, c'est vrai, écoute. » Et il dit deux mots à l'oreille de Zélie. Celui-ci recula d'un air étonné, ouvrant sa large bouche. « Comment vous voulez ?»« Oui, certes, je le veux. N'est-ce pas une surprise ?»« Une fameuse qui sera drôle encore. Mais j'y vais, capitaine. » Kernock monta bientôt sur le pont avec Mélie. À son aspect, ce furent de nouveaux cris de joie. Hurrah pour le capitaine Kernock! Hurrah pour sa femme! Hurrah pour l'épervier! Une fusée partie du San Pablo, qui était en panne à deux portes de fusil du brick. Elle décrivit sa courbe et retomba en pluie de feu. « Capitaine, voyez donc cette fusée ?» dit le lieutenant. « Bon, je sais ce que c'est, mon brave, allons, allons. Enfant, faites circuler le rhum et le genièvre. Un verre à moi, un verre à ma femme. » Mélie voulut refuser, mais comment résister à son doux ami ?« Vive les camarades et les braves enfants du capitaine de l'épervier !» dit Kernock après avoir bu. « Hurrah !» reprit l'équipage d'une voix forte et sonore. L'orgie était alors à son comble. Les matelots s'étaient pris par la main et tournoyaient avec rapidité tout autour du pont, en chantant à tue-tête les refrains les plus obscènes et les plus crapuleux. Bientôt, Maître Zélie accosta à bâbord, ramenant à bord de San Pablo les 10 hommes que Kernock y avait laissés momentanément. Il ne restait plus à bord du navire espagnol que son équipage, lié et garrotté sur le pont. « Tout est prêt, » disait Lee. « Quand la seconde fusée partira, capitaine, c'est que la mèche aura atteint. C'est bien, répondit Kernok en interrompant. Enfin, je vous ai promis une surprise si vous vous conduisiez bien. Mais votre sagesse et votre modération ont dépassé mon attente. Vous allez en être récompensé. Vous voyez ce trois-mâts espagnol, gré et équipé comme il est. Il vaut bien 30 000 piastres. Je le paye 40 000, moi, enfant. Je l'achète sur ma part de prise afin d'avoir le plaisir d'offrir à l'équipage de l'épervier un feu d'artifice avec accompagnement de musique. Tenez, voici le signal. Allons, prenez vos places. Et tout l'équipage, du moins ceux qui étaient en état de monter et de voir, se coupèrent dans les hunes et dans les haubans. La seconde fusée étant sortie du San Pablo, le feu commençait à s'y développer. C'était la surprise que Kernok ménageait à son équipage. Il avait envoyé Maître Zélie à bord du navire espagnol pour retirer le peu de poudre qui pouvait y rester et disposer des matières combustibles dans la cale et dans le faux pont, puis garrotter le plus solidement possible les malheureux Espagnols qui ne se doutaient encore de rien. C'était donc le San Pablo qui brûlait. La nuit était noire, l'air calme, la mer comme un miroir. D'abord une fumée épaisse et bitumineuse sortie par les panneaux du navire avec une nuée d'étincelles. Et un cri perçant, affreux, qui retentit au loin, s'élança de l'intérieur du San Pablo. Car son équipage voyait à quel sort il était réservé. Voilà déjà la musique, dit Kernok. Oh, il chante diablement faux, répondit Zélie. Bientôt la fumée se colora davantage, devint d'un rouge vif, et fit enfin place à une colonne de flammes qui, s'élevant en tourbillonnant du grand panneau, projeta sur les eaux un long reflet couleur de sang. Hurrah ! Cria l'équipage du brick. Puis l'incendie s'augmenta, le feu, sortant des trois panneaux à la fois, se joignit et s'étendit comme un vaste rideau enflammé, sur lequel la mâture et les cordages du San Pablo se dessinaient en noir. Alors aussi les cris des Espagnols, garrottés au milieu de cette fournaise ardente, devinrent si atroces que les pirates, comme malgré eux, poussèrent des hurlements sauvages pour étouffer la voix déchirante de ces malheureux. L'incendie était alors dans toute sa force. Bientôt les flammes s'attachèrent au gréement et coururent le long de tous les cordages. Les mâts, n'étant plus soutenus par les haubans, craquèrent et tombèrent sur le pont avec un fracas effroyable. Des manœuvres en feu pendaient de tous côtés et cet immense foyer de lumière paraissait d'autant plus éclatant que la nuit était plus sombre. Les Espagnols ne criaient plus. Tout à coup, la flamme, faisant une large trouée dans un des flancs du navire, et le grand mât s'abattant du même côté, le San Pablo donna une forte bande, se pencha sur tribord et l'eau entra en bouillonnant dans la cale. Peu à peu, le corps du navire s'abîma. Déjà, il n'avait plus hors de l'eau que son mât d'artimon, seul resté debout, isolé sur l'eau, et qui flamboyait comme une torche funèbre. Puis le mât disparut, le mât de hune éleva encore un moment son brandeau enflammé, mais bientôt l'eau frémit autour, et l'on ne vit plus qu'une légère fumée rougeâtre, puis plus rien, rien que l'immensité, la nuit. « Tiens, déjà fini !» dit Kernok. « Oh, le San Pablo nous a volé notre argent !»« Vive le capitaine Kernok qui donne d'aussi belles fêtes à son équipage !» cria Zélie. « Hourra !» répondit l'équipage. et les pirates, fatigués, se jetèrent sur le pont. Kernok laissa l'épervier en panne jusqu'au point du jour et fut goûté quelques instants de repos avec cette satisfaction d'un homme opulent qui regagne sa chambre à coucher à la fin d'une fête somptueuse qu'il vient de donner. Puis le pirate murmura en s'assoupissant « Ben, ils doivent être contents, car j'ai fort bien fait les choses. Un navire de 300 tonneaux et 3 douzaines d'Espagnols, c'est honnête. Il faut pourtant pas qu'ils s'y habituent. C'est bon de temps en temps, parce qu'après tout, il faut bien rire un peu. » Chapitre 10. Chasse. En exergue. Oui, en avant, Byron. Tout dormait à bord de l'épervier. Mélie seule était montée sur le pont, agitée par une vague inquiétude. Quoique la nuit fût encore sombre, une lueur blafarde qu'on apercevait à l'horizon annonçait l'approche du crépuscule. Bientôt, de larges bandes d'un rouge vif et doré sillonnèrent le ciel. Les étoiles pâlirent, disparurent. Le soleil commença de poindre, puis s'éleva lentement sur les eaux bleues et immobiles de l'océan qu'il sembla couvrir d'un voile de pourpre. Le calme étant toujours aussi plat, le brick restait en panne sous ses armures de la veille. Mélie rêvait assise sur le banc de car, sa tête cachée entre ses deux mains. Mais lorsqu'elle la releva, le jour, déjà assez élevé, lui permettait de distinguer les objets qui l'entouraient. Elle frémit d'horreur et de dégoût. C'étaient des matelots couchés au milieu des pots et des débris du repas de la veille. C'était le désordre le plus complet, et les boussoles renversées, les manœuvres et les cordages confusément mêlés des armes et des verres en éclats, des tonneaux défoncés, laissant couler sur le pont des flots de vin et d'eau de vie. Ici, de braves compagnons endormis, le bras jeté çà et là, étreignaient encore une bouteille dont il ne restait plus que le goulot, semblable à ces fiers cordovans qui, morts, gardaient au poing toujours le tronçon d'une dague. Là, un pirate donnait le coup passé sous la roue du gouvernail, de sorte qu'au moindre mouvement de rotation, il devait avoir la tête écrasée. Un vrai lendemain d'orgie, et d'orgie de pirate encore. Mélie commença par bénir la Providence de ce qu'elle l'avait protégée avec tant de sollicitude, toute cette honnête société que le brick berçait sur les eaux. Grâce à l'incurie qui régnait à bord pour le moment, si une tempête se fût élevée pendant la nuit, c'était fait de l'épervier, de Kernok et de l'équipage et des 10 millions. Quel dommage! Aussi voulut-elle prier. La pauvre fille trouvait à bord si peu d'occasion d'élever son âme vers le Créateur. Pour prier, elle s'agenouilla et tourna involontairement les yeux vers cette ligne vaporeuse et bleuâtre qui ceint l'horizon. Mais elle ne pria pas. Son regard devint fixe et s'attacha sur un point d'abord incertain, mais que bientôt elle parut mieux distinguer. Enfin, portant la main au-dessus de ses sourcils pour isoler davantage les rayons visuels, elle resta un moment contemplative. Puis ses traits prirent une vive expression de crainte, et en deux bonds elle fut dans la chambre de Kernok. « Tu es folle !» disait le pirate en montant sur le pont, d'un pas lourd et encore aviné. « Mais si tu m'as éveillé pour rien !»« Mais tenez !» répondit Mélie en lui présentant une longue vue d'une main, tandis que de l'autre elle désignait un point blanc qui se voyait à l'horizon. « Sacrebleu !» dit Kernok après avoir regardé attentivement. Et il porta vivement la lunette à son œil gauche. « Mille tonnerres !» Il frotta le verre de l'instrument comme pour s'assurer qu'il voyait bien et clairement, et que ni l'illusion d'optique ne le trompait. Il ne se trompait pas. Ici, un crescendo de tout ce que vous pourrez choisir de plus vigoureusement imprécatif dans le glossaire d'un pirate. À peine ce torrent de malédictions et de jurements était-il débordé que Carnoc s'arma d'un inspect. Un inspect est un morceau de bois long de 5 à 6 pieds et de 4 pouces carrés. Ce jouet de chêne sert à manœuvrer l'artillerie du bord. Carnoc changea provisoirement cette destination, car il emploie le sien à réveiller son équipage. Or, les coups d'inspect, glorieusement accompagnés de jurons à faire foudroyer le brick, plurent de rue comme grêle, tantôt sur le pont, tantôt sur les matelots endormis. Aussi, quand la ronde du capitaine fut terminée, tous ces hommes étaient à peu près debout, se frottant les yeux, la tête ou le dos, et demandaient, en faisant d'effroyables bâillements, « Mais qu'est-ce qu'il y a donc ?»« Mais ce qu'il y a !» cria Carnoc d'une voix de tonnerre. « Ce qu'il y a, chien que vous êtes, un navire de guerre, une corvette anglaise, faisant force de voile pour nous atteindre. Une corvette qui a sur l'épervier l'avantage de la brise, car le vent fraîchit là-haut, et il ne nous arrivera qu'avec cet anglais que la foudre écrase. » Et tous les yeux se tournaient vers le point que Carnoc désignait du bout de sa longue vue. « 8, 10, 15 sabords !» s'écria-t-il. « Une corvette de 30 canons. C'est gentil, et de l'escadre bleu encore !» Il appela Zélie. « Écoute, Zélie, il ne s'agit pas ici de lanterner. Fais border les avirons, mettre tout en ordre le plus vite possible. Virons de bord et gagnons le large. L'épervier n'a pas le bec et les ongles assez durs pour s'aviser à une telle proie. » Puis il embaucha son porte-voix. « Chacun à son poste pour larguer les huniers et les perroquets. Range à larguer les cacatois et le contre-cacatois. Agréez les bonnettes hausses et basses. Et vous, mes garçons, courbez-vous sur vos avirons. Si nous pouvons prendre de l'air, l'épervier n'aura rien à craindre. Vous savez, mon Dieu, que nous avons 10 millions à bord. Ainsi, choisissez. Vous êtes pendu au vergue de l'anglais ou de retourner à Saint-Paul, vos ceintures pleines, boire le grog et faire danser les filles. » L'équipage de Carnoc le comprit parfaitement. L'alternative était inévitable. Aussi, grâce au voile dont il était chargé et à ses vigoureux rameurs, l'épervier commença à filer à 3 nœuds. Mais Carnoc ne s'abusait pas sur la marge de son brick. Il voyait bien que la corvette anglaise avait sur lui un avantage réel, puisqu'elle venait avec le vent. Aussi, en prudent capitaine, le pirate fit faire branle-bas de ce combat, ouvrit la route soute aux poudres, garnir les parcs à boulets, apporter sur le pont les pics, les haches d'abordage, veillant à tout avec une activité incroyable et semblant se multiplier. La corvette anglaise avançait toujours. Carnoc fit appeler Mélie et lui dit « Cher ami, le four chauffera probablement. Tout à l'heure, tu vas descendre dans la cale, t'y blottir et ne pas plus bouger qu'un canon sur son affût. À propos, si tu sens le brick tourbillonner et descendre, c'est que nous coulerons à fond. Tu comprends bien, nous coulerons. Et attends-toi à voir plutôt que ça là qu'un morceau à fumer une pipe. Allons. « Allez pas de larmes, embrasse-moi vite, et que je ne te revoie plus qu'après la danse, si je n'y laisse pas ma peau. » Mélie devint tellement pâle que vous l'eussiez prise pour une statue d'albâtre. « Carnoc, laissez-moi près de vous, » murmura-t-elle. Et elle jeta ses deux bras autour du cou du pirate, qui tressaillit un instant et puis la repoussa. « Non, va-t'en, » lui cria-t-il, « va-t'en. » Cardan, que je veille sur tes jours, dit-elle en s'attachant à ses pieds. Zélie, délivre-moi de cette folle et descends-la au fond de cale, reprit le pirate. Et comme on allait se saisir de Mélie, elle se dégagea violemment et s'approcha de Carnoc, le teint animé, l'œil étincelant. Au moins, lui dit-elle, prends ce talisman, porte-le, il protégera tes jours pendant le combat. Son effet est certain, c'est ma vieille grand-mère qui me l'a donné. Ce charme magique est plus fort que la destinée. Crois-moi, porte-le. Et elle tendait à Carnoc un petit sachet rouge suspendu à un cordon noir. Amen, et encore moi, merde, cette folle, dit Carnoc en haussant les épaules. M'as-tu pas entendu, Zélie? Allez, à la cale! Mais si tu meurs, que ce soit donc par ta volonté, mais au moins je partagerai ton sort. Rien, plus rien maintenant ne protège mes jours. Je redeviens femme, comme tu es homme, s'écria Mélie, qui jeta le sachet dans les flots. Bonne fille, dit Carnoc, en la suivant des yeux, pendant que deux matelots la descendaient dans le faux pont, au moyen d'une chaise fixée à une longue corde. Et la corvette anglaise approchait, approchait toujours. Zélie s'avança près de Carnoc. « Capitaine, l'Anglais nous gagne. »« Ben, je le vois, sacrebleu, bien, bien vieux sot. Nos avions ne font rien. Ils fatiguent inutilement nos hommes. Fais-les déborder, charger les caronades de boulets, placer les grappins d'abordage, mettre les pierriers dans les hunes. Quand nous allons en découdre, il n'y a pas à tergiverser. » Fais aussi amener les perroquets et aller bas les bonnettes. Et si la brise fléchit, nous nous battrons sous nos huniers. C'est la meilleure allure de l'épervier. Quand la manœuvre fut exécutée, Carnoc harangua son équipage ainsi qu'il suit. Enfin, voici une corvette qui a les reins solides. Elle sert de si près l'épervier que nous ne pouvons pas espérer de gagner au vent. D'ailleurs, il n'en fait pas. Si nous sommes pris, nous serons pendus. Si nous nous rendons, ce sera tout de même. Combattons donc en braves matelots, et peut-être qu'en faisant feu, comme dit le proverbe des quatre pattes et de la queue, nous en retirerons avec nos culottes, mordieu. Mes garçons, l'épervier a bien coulé un grand trois-mâts, Sardes, sur les côtes de Sicile. Après 2 heures de combat, et pourquoi cadrerait-il cette corvette à pavillon bleu? Songez aussi que nous avons 10 millions à conserver. Cordieu, enfant, 10 millions ou la corde! L'effet de cette péroraison fut péremptoire, et tout d'une voix, l'équipage cria « Ouah, mort aux Anglais !» La corvette se trouvait alors si proche que l'on distinguait parfaitement ses amures et son gréement. Tout à coup, une légère fumée s'éleva à son bord, un éclair brilla, un bruit sourd retentit, et un boulet siffla en passant près du beaupré de l'épervier. « La cornette commence à parler, » dit Carnoc. « C'est notre pavillon qu'elle veut voir, la curieuse. » « Et que faut-il hisser ?» demanda maître Zélie. « Ceci, » dit Carnoc, « car il faut être galant. » Et il poussa du pied une vieille souquenille de matelot, toute tachée de goudron et de vin. « C'est drôle, » dit le maître, et le haillon se guinda majestueusement en haut de la drisse. On croit que la plaisanterie parut faible à bord de la corvette, car 2 coups de canon en partirent presque au même instant, et les boulets hachèrent en quelques endroits le gréement de l'épervier. Oh, « oh, oh, nous nous fâchons, la belle. Tu fais la bégueule, » dit Carnac. « À moi, Mélie !» Et il s'allongea sur la couleuvrine qu'il avait baptisée de ce nom, visa, pointa, À toi, l'Anglaise !» Il fit jouer la batterie. « Bravo !» s'écria-t-il quand la fumée de l'amorce fut dissipée et qu'il put voir l'effet de son coup. « Bravo ! Vois donc Zélie ! Déjà son perroquet de fougue en pantaine. Ça promet, garçon ! Mais c'est quand l'épervier va lui chatouiller les flancs avec ses griffes d'abordage que l'Anglaise va rire. « Hourra, hourra !» cria l'équipage. La corvette ne risposta pas au boulet de Kernock, répara son avarie au plus vite et laissa porter en plein sur le corsaire. Alors elle en était tellement près qu'on entendait la voix et le commandement des officiers anglais. « Enfant à vos pièces !» dit Kernock en se précipitant sur son banc de car, le porte-voix dans la main. « À vos pièces, sacre Dieu ! Ne faites pas feu avant le commandement !»